Radio de la Paix, la grande interview.
Ben Diakité.
Bonjour à tous, nous sommes à la grande interview avec pour invité Madame Marguerite Yolubikone, actrice de la société civile ivoirienne, présidente du conseil d'administration de Waneb Côte d'Ivoire, le réseau ouest africain pour l'édification de la paix, aujourd'hui commissaire central à la commission électorale indépendante. Nous la recevons à la faveur de la publication de son livre intitulé « 2010, élection présidentielle de sortie des crises dans les coulisses de la CEI ». Madame Yolubikone, vous avez décidé de témoigner sur cette élection de 2010. Vous teniez un rôle important dans l'organisation de cette élection puisque vous étiez membre de l'équipe chargée de piloter ces élections. Pour revenir donc sur votre témoignage lors de ce processus électoral, nous allons feuilleter ensemble votre ouvrage baptisé 2010, élection présidentielle de sortie des crises dans les coulisses de la CEI. Au micro, Ben Diakité, réalisation Antoine Kouassi.
Radio de la Paix, se parler, s'écouter, se comprendre.
Madame Marguerite Yolubikone, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Votre livre sort 10 ans après l'élection présidentielle de 2010 en Côte d'Ivoire. Nous sommes à quelques mois, on va dire, donc, de l'élection présidentielle de 2025. Pourquoi ce choix de calendrier?
Bonjour, monsieur Diakité. Merci de me donner cette opportunité, donc, de parler de ce livre. Alors, c'est plus exactement 14 ans après. Parce que c'est depuis 2010, nous sommes en 2024, c'est 14 ans après. Alors, je l'ai écrit dans la foulée en 2010-2011, pendant la pause après la crise, mais pour 3 raisons. La première raison pour laquelle je sors ce livre maintenant, c'est pour prévenir. Je me dis, nous allons vers des élections, et ce sont les mêmes acteurs et qui se profilent à l'horizon. Mais de ma position de technicien, il faut que je donne quand même comment ça s'organise pour éviter une nouvelle crise à la Côte d'Ivoire. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est pour rendre hommage aux techniciens que nous étions en 2010, pour le travail que nous avions abattu, qui, j'avoue, avec cette crise, est resté méconnu et nous a laissé frustrés parce que nous avons travaillé et personne n'a reconnu le travail qui a été fait avec, à notre tête, le secrétaire général. Et ce secrétaire général, feu, M. Konan Kwadjo, c'est la troisième raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. C'est pour lui rendre hommage. Parce que sans ce monsieur, ce que nous faisons de moderne aujourd'hui dans la commission électorale indépendante, on ne le ferait pas. Malheureusement, il est décédé. Et il est décédé dans l'anonymat. Personne ne connaît son nom. Et c'était pour rendre hommage à ce monsieur. Donc voilà les 3 raisons. Prévenir, rendre hommage aux techniciens qui sont des petites mains, qui ont travaillé d'arrache-pied au péril de leur vie et à ce grand monsieur qui dirigeait donc ces petites mains, c'est-à-dire le secrétaire général de la commission électorale indépendante.
À l'époque, en 2010.
En 2010. Donc, il est décédé en 2015.
Alors, c'est le professeur Bakayoko Lee Ramata, anciennement ministre de l'enseignement supérieur, qui a préfacé votre ouvrage. Elle dira de votre livre que c'est un document susceptible de contribuer à enrichir le processus électoral et à certains égards à l'émergence de la vérité. Alors, quand il parle de vérité, de quelle vérité elle parle?
Alors, il faut dire que je profite pour dire merci au professeur Bakayoko Lee Ramata qui spontanément a accepté de préfacer ce livre après l'avoir lu, bien sûr, après avoir lu le draft. Et si elle le dit, c'est une scientifique, hein, si elle le dit, elle sait pourquoi elle le dit. Et moi, je me dis que depuis 2010, peu de personnes ont parlé de cette élection. Tout ce qu'on a retenu, c'est la crise post-électorale. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Chacun y va de ses supputations. Personne ne sait ce qui s'est passé. Personne n'a dit, alors que c'est du travail technique. La commission électorale fait du travail technique. On ne retient que la crise post-électorale qu'on impute à la commission. Elle me l'a dit. En lisant ce livre, elle a eu des réponses à des questions qu'elle se posait. Et c'est de cette vérité-là, je pense, qu'elle parlait en disant que ça va permettre de donner la vérité du travail qui a été fait.
Votre travail à cette époque était donc d'organiser une élection inclusive, transparente, démocratique, avec des résultats inattaquables. Est-ce que, au regard de ce qui s'est passé à la fois au premier tour de cette élection, ensuite au second tour, Peut-on dire, affirmer que vous avez atteint cet objectif?
Je dirais oui. C'est vrai que quand on organise un jeu, le jeu démocratique, on ne voudrait pas que ça aboutisse à des crises. Mais la crise qu'il y a eu après n'est pas imputable au travail qui a été fait par les agents de la commission électorale ni par les commissaires centraux. Et nous avons atteint nos objectifs de faire un travail transparent parce que tout le monde a participé. On a eu le premier tour, on a eu le second tour. Chacun était représenté dans le bureau de vote. Chacun avait loisir de saisir les institutions pour réclamer ce qu'il voulait. Mais jusqu'à ce jour, personne ne peut dire que le travail que nous avons effectué au niveau de la commission électorale, de manière technique, n'a pas été bien fait.
Oui, le monde entier a salué quand même l'organisation de ces élections, notamment le premier tour, avec un taux de participation de plus de 80%, précisément 83,73% de participation, quelque chose qu'on n'avait jamais vu en Côte d'Ivoire, avec des résultats, j'ai dit bien, du premier tour. Le président Laurent Gbagbo, qui était donc le candidat de la LMP, la majorité présidentielle, avait enregistré 38% des voix. Ensuite, le président Alassane Ouattara, qui suivait avec 32% des voix, il était donc le candidat des Républicains. Puis le président Henri Konan Bédié avec 25% des voix. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, puisqu'on vous a, c'est un témoignage. Ces résultats avaient été salués, mais il s'est trouvé que le PDC-RDA, son représentant à la CEI, disait qu'il avait été délesté de 500 000 voix. Comment vous avez réglé ce dossier? Qu'est-ce qui s'était passé réellement? Puisque vous êtes une sachante, c'est pour ça qu'on vous écoute.
Alors, effectivement, c'est le droit de tout candidat, c'est écrit dans la loi, de contester ou d'apporter les preuves de la contestation. Bon, moi, en tant que technicienne, j'ai regardé les commissaires sans trop régler le problème. Parce que il faut dire qu'ils avaient toujours travaillé en consensus, en bonne intelligence. Donc, quand cette personne, c'est-à-dire ce représentant du PDCI qui dit que le PDCI a été délesté et qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, les autres commissaires lui ont remis tous les PV en lui demandant de voir les anomalies et puis ramener pour que, bon, il puisse faire les compilations. Donc, cette personne a eu loisir de le faire et est revenue avec les PV. En tout cas, n'a pas trouvé des choses à redire là-dedans. Et donc, je pense que ça a été une bonne manière de faire.
De régler cette question
de cette manière parce que ça a permis de passer là-dessus. Et le PDCI même n'a pas porté plainte. Mais pas le Conseil constitutionnel. Donc, ça veut dire que le PDCI était convaincu.
Alors, toujours sur ce processus électoral de 2010, vous disiez donc dans votre livre que le Conseil constitutionnel va proclamer ses résultats que je venais donc de dire tantôt et fixer le second tour de la date des élections. Alors, c'est en lisant votre livre, ça a attiré mon attention sur la fixation de la date. Mais les délais étaient tellement en cours. Alors, comment vous avez pu gérer cette question? Parce qu'on finissait le 31 octobre avec une élection et les résultats qui avaient été rendus, puisque le second tour était fixé pour le 21 en novembre 2010. Donc, le délai était tellement court pour un second tour. Comment vous avez géré tout ça? Et vous avez été aussi surpris de voir que c'est le Conseil constitutionnel qui donnait donc la date du deuxième tour.
Oui, c'était une surprise, c'est vrai. Le Conseil constitutionnel, selon ses prérogatives, c'est pas le Conseil constitutionnel qui propose, parce que c'est une proposition qu'on fait au gouvernement qui prend un décret de la date. Mais selon la loi, c'est la commission électorale qui fait la proposition. Mais cette proposition, c'est déjà dans la loi que c'est deux semaines après. Et je pense que c'est dans la foulée que le Conseil constitutionnel a donné la date en même temps qui cadrait avec les deux semaines. Sauf que, bon, c'était pas en concertation avec la commission électorale. Ce qui fait que, avec la stratégie qui avait été mise pour le second tour, la commission électorale a dû négocier une semaine de plus pour que on puisse tenir
dans les délais
pour faire la nouvelle stratégie, le nouvel mode opératoire qui avait été décidé et adopté en commission centrale.
Alors, sur cette question, on avait vu qu'il y avait quand même le premier tour, tout le monde avait félicité, plus de 80% de participation, de taux de participation. Cependant, on avait remarqué aussi qu'il y avait des problèmes sur les ouvertures des bureaux de vote, des agents électoraux non et mal formés, les spécimens des bulletins de vote qui n'étaient pas... Comment vous avez pu adresser toutes ces questions en moins de 3 semaines. Les agents électoraux qui n'étaient pas toujours bien formés, les matériaux électoraux parfois qui manquaient dans certains bureaux de vote, il y avait quand même quelques confusions sur les bulletins vrais et les bulletins spécimens. Comment vous avez pu gérer toutes ces questions-là?
Alors,
en 2 semaines pour le second tour.
Oui, il faut dire que l'élection, c'est l'opération qui mobilise en une seule journée des milliers et des milliers de personnes. Parce que ces milliers de personnes viennent d'où? En dehors des membres des commissions, il y a les agents électoraux. Nous avions 20 000 bureaux de vote. Et chaque bureau de vote devait avoir 3 agents électoraux. Ça fait 60 000 personnes qui sont pris parmi les fonctionnaires. Et ces personnes-là, leur matière de travail, ce n'est pas les élections. Et on les forme pour une tâche pratique. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait quelques couacs. Ce n'était pas des masses, comme on le dit. Le pourcentage n'était pas aussi élevé, mais ce sont des faits qui ont été relevés par les observateurs nationaux et internationaux. Et la commission électorale indépendante devrait tenir compte de ces remarques qui ont été faites par des observateurs indépendants, puisqu'ils font partie aussi des élections, parce que c'est pour ça qu'on accrédite des observateurs pour qu'ils voient, qu'ils rapportent ce que nous, en étant à la commission, qu'on ne voit pas. Et donc, lorsqu'ils ont rapporté cela, c'est d'ailleurs pour cela que nous avons décidé de dire, bon, on va mettre un accent particulier sur la formation. On va changer la couleur des spécimens de bulletins, parce que les spécimens de bulletins, on les remet aux candidats pour qu'ils apprennent à voter à leurs électeurs, etc. Et on va changer carrément les couleurs pour que ce ne soient pas des couleurs qui prêtent à confusion. Et donc, au second tour, on a changé la couleur des spécimens qui étaient, je crois, violets. Et puis, de l'autre côté, c'était carrément du vert. Donc, il n'y a pas possibilité de confusion. Ensuite, pour la formation, nous avions mis un autre mode opératoire pour mieux former. Ensuite, les bureaux de vote qui ne sont pas ouverts à l'heure. Il n'y en avait pas beaucoup, mais ça faisait une petite tache d'huile. Et donc, nous avons décidé de faire en sorte que le matériel qui va dans les bureaux de vote soit conditionné. Comme l'enveloppe, lorsque ça arrive, c'est conditionné dans des boîtes d'archives où tout le matériel est contenu là-dedans. Alors qu'au premier tour, c'était du matériel qui partait en vrac et au niveau des commissions locales, c'était les commissaires locaux qui faisaient le dispatching. Or là, nous avions déjà fait le dispatching dans nos entrepôts et ils n'avaient qu'à distribuer au niveau des bureaux de vote. Et dès qu'on ouvre, on a tout le matériel. Et ça permet donc d'ouvrir rapidement les bureaux de vote. Et je pense que ça a marché, puisque même au second tour, nous avons eu aussi plus de 80% de taux de participation. Donc ce sont des questions techniques, mais avec la bonne volonté de tous, les commissaires centraux, les techniciens, nous avons pris chaque élément et nous avons trouvé la solution à chaque remarque qui nous avait été faite par les observateurs électoraux.
Alors, quelle a été la place de l'opération des Nations Unies dans le processus électoral? Qu'est-ce que l'ONUCI a fait concrètement dans ce processus-là? Quelle a été sa part? Puisque vous avez travaillé à cette époque en tant que technicienne à la CEI. Qu'est-ce que l'ONUCI vous a apporté dans ce processus électoral?
Alors, l'ONUCI a apporté beaucoup dans ce processus. L'ONUCI, à travers l'UNOPS, était chargée de la logistique, par exemple, de transporter par les avions de l'ONUCI pour que les éléments aillent, soient déployés assez rapidement, soient repliés assez rapidement. L'ONUCI a aidé à la sensibilisation et à la formation des agents électoraux, a aidé également les organisations de la société civile à faire la sensibilisation sur le processus électoral. Ensuite, comme vous l'avez vu, l'ONUCI était chargée, selon les accords, de certifier les résultats au final. Et donc, par rapport à cela, l'ONUCI a reçu les mêmes PV que la Commission centrale a reçu à partir des bureaux de vote, a reçu les mêmes PV que le bureau du médiateur, a reçu les mêmes PV que le Conseil constitutionnel. Et donc, l'ONUCI avait une place centrale dans l'opération de cette élection-là. Vraiment, ça a été un grand rôle qu'il est à saluer parce que l'ONUCI était neutre et vu l'atmosphère qui régnait entre les parties prenantes primaires, là, c'est-à-dire les candidats et tout ça, l'ONUCI faisait tampon. Ça nous a aidé aussi à sillonner la Côte d'Ivoire et avoir des élections apaisées, saluées de tous. Parce que durant le premier tour et le second tour, si vous regardez les films encore aujourd'hui, c'était pas au cours des élections. C'est bien après que la crise est venue. Et je pense que le fait qu'on a organisé ces élections de manière assez fluide, l'ONUCI y est pour beaucoup. Et je pense que les Ivoiriens devraient leur dire merci.
Amis auditeurs, vous êtes à l'espace La Grande Interview et dans le cadre de cet espace, je reçois Madame Marguerite Yolibi Kone. Elle est écrivaine, elle était anciennement technicienne à la CEI. Aujourd'hui, elle est commissaire centrale à la CEI. Elle a publié son ouvrage intitulé 2010 élection présidentielle de sortie des crises dans les coulisses de la CEI. Madame la présidente Yolibi Kone, on va parler maintenant du deuxième tour. Vous avez dit, le premier tour s'est bien passé, le second tour également. Malheureusement, après donc les résultats du deuxième tour, la Côte d'Ivoire va basculer malheureusement dans la violence. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la proclamation des résultats? Le monde entier a vu cette image du représentant donc de la majorité présidentielle qui était commissaire, qui est venu tirer, arracher des résultats des mains du porte-parole de la CEI qui était aussi également commissaire à la CEI. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on arrive à un tel incident? Parce que dans votre livre, vous semblez dire les gens travaillent d'arrache-pied, les gens malgré les divergences politiques. Mais là, on a vu vraiment le summum de la divergence politique à travers cet acte. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en arrive là?
Alors, je voudrais rectifier que, à l'époque, M. Damanan Adia, il ne représentait pas la LMP. Il représentait plutôt le ministère de l'Intérieur.
D'accord.
Et nous avons tous été surpris de cette image. Moi, en tant que technicienne, j'étais dans la salle. Donc, c'est après coup que j'ai vu l'image. Parce qu'on était tous dans la salle. Et puis, bon, ce fait s'est déroulé devant tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il faut lui poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est lui seul qui peut répondre à cette question. Sauf que les résultats qui ont été, comme vous me le demandez, les résultats qui ont été déchirés.
Bon, est-ce que c'était consolidé, ces résultats? Parce que c'est ce qu'il semblait lui-même dire. Est-ce que ces résultats étaient consolidés? Est-ce que c'était passé au filtre? Est-ce que ça avait été validé par l'Assemblée? Quel était le processus pour qu'on vienne dire un résultat? Expliquez-nous. Quel est le processus pour qu'on vienne dire un résultat devant les caméras, devant les micros? Comment ça se passe quand vous avez les résultats?
Alors, pour les résultats, je peux vous dire que lorsque l'élection est terminée dans le bureau de vote, la loi dit immédiatement après la clôture, on fait le dépouillement. Quand on finit de faire le dépouillement, quand je dis la loi, c'est le code électoral. Quand on finit de faire le dépouillement, on établit les PV. Lorsqu'on finit d'établir les PV, on les met dans des enveloppes inviolables destinées depuis le bureau de vote aux destinataires, comme on peut dire, c'est-à-dire ceux qu'on a cités, je vais dire l'ONUCI, le facilitateur, la commission centrale, le conseil constitutionnel et la commission locale à partir du bureau de vote. Donc quand ça arrive au niveau de la commission locale sous-préfectorale, il compile tous ces PV-là et ça fait un paquet pour la commission locale sous-préfectorale qu'il envoie au niveau du département. Le département en fait pareil. Et lorsqu'il compile au niveau de la sous-préfecture, il fait aussi des paquets pour ces quatre destinataires que je viens de citer. Et quand ça part au niveau du département, le département fait la compilation, c'est-à-dire fait l'addition de ces résultats et il envoie à la régionale, à la commission électorale régionale qui compile également tous les départements de la région. Si la région comporte quatre départements, il reçoit quatre sacs et puis il compile quand ça vient à la commission. Et au niveau régional, ils établissent un PV de recensement général des élections de cette région. Et donc, ce PV-là est ajouté aux enveloppes inviolables dans le sac de chaque destinataire. Et au niveau de la commission centrale de la CEI, ils sortent le PV de recensement général Et c'est ce PV de recensement général qui est mis dans une feuille Excel pour faire l'addition. Parce que c'est une addition, c'est 1 plus 1, 2 plus 2, etc. Pour faire l'addition. Et quand c'est terminé, on imprime. Donc, c'est les techniciens qui font ce travail, qui rentrent dans la machine. Vous ne voyez pas les commissaires centraux se mettre à la machine en train de taper. Donc, lorsqu'ils finissent, quand les techniciens que nous étions, on termine, on sort ce PV-là, saisi, qu'on soumet aux commissaires centraux. Et ils doivent délibérer là-dessus. C'est l'assemblée des membres. C'est 2/3 au moins qui doivent délibérer dessus. Quand ils ont fini, c'est remis au secrétaire permanent. À l'époque, c'était le ministre Mirmont. Quand c'est remis au ministre Mirmont, le ministre Mirmont se charge de donner une copie au porte-parole et une copie à chaque représentant des candidats qui était dans une salle annexe. Et c'est après cela que le porte-parole va au plateau pour annoncer les résultats. Et tous les résultats, région par région, c'est comme ça, c'est fait. C'est comme ça, c'était fait.
Ben aujourd'hui, avec le recul, comment vous expliquez, Madame Marguerite Yolibi, vous qui étiez à l'intérieur donc de la commission électorale indépendante, le temps que vous mettiez pour pouvoir annoncer les résultats? Pourquoi les résultats ne venaient pas vite? Pourquoi vous n'arriviez pas à proclamer les résultats 24 heures, 48 heures après les élections? Qu'est-ce qui expliquait cette lenteur qui faisait que l'atmosphère était tendue? Pourquoi la CEI n'était pas alerte?
La CEI était alerte, mais nous étions dans un contexte de méfiance généralisée. Et il fallait prendre les précautions, vérifier tous les chiffres avant de proclamer. Et donc, c'est mieux de donner un résultat vrai que de donner un résultat qui n'est pas correct. Et puis ensuite, on va venir rattraper. Ça ne fait pas sérieux. Et quand vous parlez de lenteur, vous dites oui, 24 heures, 48 heures. Mais c'est ce qui est fait partout dans le monde. On prend un exemple, le Sénégal. Mais le Sénégal, ce sont des tendances. La France même, ce sont des tendances. Le même jour, on a les tendances. Mais après, si vous regardez bien, 3 jours, 4 jours, 5 jours après, quand on donne les résultats, souvent les tendances, les chiffres ne sont même plus les mêmes. Mais dans notre contexte ivoirien, si on s'amusait à dire, voilà les tendances à 10 heures, ensuite à midi, si les tendances changent pour l'un ou l'autre, on va crier au loup et faire descendre les gens dans la rue pour rien. Et les commissaires qui travaillaient se sont dit, mais il faut prendre le temps. Surtout que la loi même dit de ne pas faire de sondage. À partir de la publication de la liste électorale définitive, on ne fait pas de sondage. C'est écrit dans le code électoral à l'article 39, clair et net. Et donc, il n'y avait pas de raison de se précipiter. Le seul délai qui était indiqué dans le code électoral, c'était la remise de ces PV-là au destinataire dans les 72 heures. Et ça a été fait dans les 72 heures à tous les destinataires, ONUCI, Conseil constitutionnel et médiateurs. Ça a été fait. Et donc, les commissaires travaillaient de manière sereine et au fur et à mesure que, puisque ça s'est fait partout dans la Côte d'Ivoire, au fur et à mesure que chaque commissaire central arrivait, donc il prenait et il regardait et il le faisait de manière vraiment, je veux dire, de manière sereine. C'est pas qu'on organise les élections sur le champ, c'est dans la même salle, on donne les résultats, non. Il faut ouvrir les PV, il faut regarder, il y a des questions qui sont posées. Quelquefois même, ils ouvrent les enveloppes des bureaux de vote pour voir est-ce que c'est conforme et tout ça. Je pense que c'était le travail, c'était le mode opératoire qui avait été établi. Bon, je comprends, hein, les populations étaient, comment je vais dire, pressées. Tout le monde était pressé parce qu'on était resté combien d'années, on attendait la sortie de cette crise. Donc, on voulait aller plus vite. Mais aller plus vite, faut pas se précipiter. Comme je l'ai dit, faut pas se précipiter. Et donc, je pense qu'ils ont travaillé selon le mode opératoire.
Alors, autre affirmation de ce document, de votre livre, de vous-même, c'est de dire que vous indexez la responsabilité du Conseil constitutionnel dans la proclamation des résultats. Vous avez dit que les résultats tels que ça a été proclamé par le Conseil constitutionnel ne devraient pas être donnés comme ça. Ou bien le Conseil constitutionnel annulait les élections, on les reprenait, mais n'avait pas à annuler une partie des élections pour proclamer un autre candidat vainqueur. C'est ce que je lis
oui.
Dans votre analyse.
Bon, en fait, je l'ai pas inventé. Mm-hmm. Le code électoral dit que le résultat définitif de l'élection du président de la République est proclamé après examen des réclamations éventuelles par le Conseil constitutionnel et publié selon la procédure d'urgence. À l'époque, il y avait aussi la certification de l'ONUCI. Mais déjà, c'est ce que l'article 63 dit. L'article 64 qui suit dit, dans le cas où le Conseil constitutionnel constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en affecter le résultat d'ensemble, il prononce l'annulation de l'élection. C'est clairement dit. La date du nouveau scrutin est fixée par décret en Conseil des ministres sur proposition de la commission chargée des élections. Le scrutin a lieu au plus tard 45 jours à compter de la date de la décision du Conseil constitutionnel. Mais le résultat que le Conseil constitutionnel a donné, ce n'était pas le résultat de la CEI. Et donc, ils ont vu sûrement des irrégularités graves, puisque c'est des éminents juristes. Sauf qu'ils n'ont pas annulé le résultat, ils ont donné un autre résultat. Donc, je n'invente rien. Moi, je ne fais que lire les textes. Et c'est ce que nous faisons toujours à la commission électorale, les textes. On reste calé sur les textes. C'est ça notre protection, les textes. Pas sortir des textes, parce que ce n'est pas nous qui faisons la loi. C'est le législateur. Nous n'interprétons pas. C'est la mise en œuvre de la loi. Donc, vraiment, la commission électorale fait son travail. Les autres institutions doivent faire leur travail. Au regard de la loi, parce que c'est nos représentants tous qui sont à l'Assemblée nationale qui font la loi. Donc, si on doit laisser le loisir à chacun de faire ce qu'il veut, ça va poser problème. Ça n'a pas loupé, ça a posé problème.
Alors, si vous devriez jeter un regard sur ces élections de 2010 de façon globale et générale, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous retenez?
Alors, je dirais que ce sont les résultats historiques du fait du taux de participation, 83%. Au premier tour, 81%. Au deuxième tour, c'est vraiment un engouement, une participation historique. Et en Côte d'Ivoire et dans beaucoup de pays dans le monde. Ensuite, pour ce que nous avons vécu après, je dis que c'est un véritable gâchis. C'est un véritable gâchis parce que ce n'est qu'un jeu démocratique. Un jeu, on le gagne, on le perd et on reprend. Si on a perdu un jeu et qu'on tue l'arbitre, on se met à vouloir tout détruire, mais on ne pourra plus jouer. Et on ne sera plus en joie. Parce qu'un jeu, c'est pour nous mettre en joie. Et les élections, c'est un jeu démocratique. C'est vrai que celui qui gagne est en joie et celui qui perd n'est pas en joie. Mais celui qui a perdu se prépare pour l'échéance qui arrive. C'est dans 5 ans. On a vu la CAN ici. La CAN d'avant, là, on l'avait perdue, non? Si on avait fait des choses où on nous avait sorti, est-ce qu'on aurait eu cette joie que nous avons eue avec la CAN que nous avons eue en Côte d'Ivoire? On n'aurait pas. La CAF nous aurait radié et la Côte d'Ivoire n'aurait plus participé. Mais c'est ce qui est arrivé. Donc, vraiment, c'était historique. On était contents. On a fait du bon travail en tant que technicien avec cette crise-là. Ça a noyé tout le travail que nous avons fait. On a été frustrés. Et on a retenu que cela, un véritable gâchis qu'on aurait pu éviter. Parce que les élections, là, c'est un jeu. Donc on reprend. Quand j'ai gagné, c'est bon. Quand je n'ai pas gagné, je tire les leçons de ce que je n'ai pas bien fait. Et je me prépare en conséquence. Voilà.
Alors, je le disais tantôt, Madame Marguerite Yolibi, nous sommes à l'orée donc de l'élection présidentielle de 2025. C'est dans 2025 qu'on aura ces élections, donc c'est dans quelques mois. Quelles sont les leçons que vous pouvez tirer du processus électoral de 2010, 2015, 2020 pour qu'on ait des élections plus sereines en 2025 et plus apaisées?
Je dirais qu'il faut que les acteurs primaires, c'est-à-dire les candidats potentiels, surtout eux, connaissent la loi, les règles du jeu. On ne peut pas aller à un jeu, à une élection, sans connaître les règles du jeu. Moi, je connais des candidats qui n'ont jamais ouvert le code électoral. Mais si vous n'avez jamais ouvert le code électoral, où se trouvent les règles du jeu? Comment vous pensez pouvoir gagner? Donc, je pense qu'il y a souvent des actions qui sont faites par ignorance. Malheureusement, ces candidats, ces partis politiques, souvent qui ignorent certaines choses, c'est elle qui va instrumentaliser les populations, les électeurs. Donc, c'est en cela que, depuis 2010, les commissions qui sont passées se sont attelées à sensibiliser, à informer, à vulgariser ces règles pour que, comme le dit le président de la CEI, le président actuel de la CEI, pour que nul n'en ignore. Quand tout le monde sait, on ne peut pas être manipulé. Parce que le processus électoral ivoirien est tellement bien fait. C'est-à-dire, celui qui organise là, c'est-à-dire la commission électorale, l'organe chargé des élections, là, elle n'est pas dans les bureaux de vote. Dans les bureaux de vote, le législateur dit, il y a l'électeur, le candidat, son représentant. Et ceux qui viennent les aider, ce sont les agents de bureau de vote, qui sont des fonctionnaires, qui ne sont pas la CEI. La CEI n'y est pas. Et donc, quand on veut être candidat, de grâce, il faut connaître déjà le nombre des bureaux de vote. Quand on connaît le nombre, on choisit en conséquence ces représentants, on ne les choisit pas à la veille. Et quand on les choisit, on les forme, on leur partage le mode opératoire. Et la commission électorale, pour ce que j'ai vécu depuis 2018 à aujourd'hui, présente toujours le mode opératoire à ses acteurs primaires. D'abord, des rencontres directes avec les candidats et les partis politiques, et ensuite, des campagnes de sensibilisation à travers les organisations de la société civile pour les électeurs, parce que ce sont les deux-là qui sont les acteurs primaires. Il fait cette vulgarisation. Ensuite, le système est fait de sorte que si vous avez vos représentants, vous avez joué votre rôle. Quand les PV dans le bureau de vote, les agents de bureau de vote ont obligation de remettre un PV à chaque représentant présent. Il ne va pas aller le trouver dans la maison là-bas pour le faire. Et de chez lui, assis pour le faire. Quand on leur remet, c'est même pas des PV qu'on écrit plusieurs fois, c'est des PV auto-carbonés pour que la première page soit identique aux autres. Si votre représentant est là, il a tout suivi, il prend le PV signé et qu'il est là au moment de la compilation, parce qu'au moment de la compilation, au niveau de la commission électorale locale sous-préfectorale, il y a un vidéoprojecteur et il y a un tableau où c'est projeté pour tout le monde. On a 580 commissions électorales locales. Les 580 ont un vidéoprojecteur. Mais il se trouve que quelquefois, quand on va là-bas, quand on commence les compilations, les représentants des candidats ne sont même pas là. Ils n'ont même pas les PV. Donc, les leçons à tirer, je vais dire, il faut que l'Ivoirien aille à l'information, d'abord. Ensuite, qu'ils se disent que l'élection, c'est un jeu. Et le jeu démocratique a ses règles. Et ces règles-là, il faut les connaître.
Dernière préoccupation, qu'est-ce que vous pensez de la question de la réforme de la commission électorale indépendante? Une question qui revient très souvent, la question de la réforme de l'audit, donc de la liste électorale également.
Alors, sur cette question de réforme, Monsieur Diakité, vous êtes là. Hein? Il y a eu combien de réformes qui ont été faites? Moi, en tant que société civile, je me rappelle que j'ai été dans le processus de la réforme en 2013. Nous avons proposé une mouture qu'aujourd'hui les gens demandent là. Nous avions demandé qu'il y ait que des techniciens, à l'image de ce qui s'est passé au Bénin, où ceux qui sont désignés vont à l'Assemblée nationale et prêtent serment, on leur pose des questions. Ou bien à l'image du Canada, où celui qui est à la tête est recruté. Mais les partis politiques nous ont dit quoi? L'élection là, c'est une question des partis politiques. C'est nous d'abord. Il faut qu'on soit là. Il faut qu'on voit dedans. Mais à chaque fois, ils sont dedans, ils voient. Avant, c'était leur représentant. Maintenant, ils proposent des gens qui sont nommés par décret. Lorsque la personne rentre, ce sont vos représentants. Ils s'élèvent encore. Ils disent à leur représentant de sortir. Parce qu'ils se sont rendus compte que quand le représentant rentre là, au niveau de la commission centrale, tu es obligé de travailler selon la loi. Tu ne travailles pas selon ton bon vouloir. La seule difficulté que nous avons aujourd'hui, je le dis franchement, c'est les commissions locales. Au niveau des commissions locales, les commissaires locaux sont désignés par activité. Donc, quand on finit l'activité, ils ne repartent pas dans leur parti politique et ils sont militants. Donc, quand ils viennent en tant que commissaires locaux, ils ont du mal à se départir de ce militantisme-là. Et ça fait que ça fait confusion dans la tête. C'est le seul hic qui est là, parce que eux, ils sont nommés par activité. En deux sessions, ils deviennent agents lambda, ils repartent dans leur parti politique, ils battent campagne, etc. Quand ils reviennent, on dit non, il faut couper le cordon. Souvent, ils ont du mal à le faire. Sinon, au niveau de la commission centrale, nous sommes nommés pour 6 ans par décret. Nous sommes protégés par la loi. Nous avons une certaine immunité. Et nous travaillons vraiment la tête libérée. Le législateur a fait en sorte que ça se fasse comme ça. Et ça fonctionne bien à ce niveau. C'est bien, moi je suis d'accord que les partis politiques veulent être là pour voir. Mais on pourrait dire, mais vous êtes là pour voir. Mais pourquoi vous êtes là? C'est vous qui avez demandé à être là. Et pourquoi à chaque fois vous voulez que vos représentants sortent? Mais on ne va pas partir de réforme en réforme. C'était le ministère de l'Intérieur qui organisait. On a trouvé que, pour faire la commission électorale indépendante, que le ministère de l'Intérieur, tous ces sous-préfets et préfets là, tout ce corps préfectoral là, étaient affiliés au gouvernement. Et donc, ne pouvaient pas. On a fait une commission électorale indépendante. Selon la mouture que les partis politiques ont voulu. Moi, ce que je demanderais, c'est que les partis politiques sachent ce qu'ils veulent. Sincèrement, moi je suis de la société civile, je parle comme ça. Ils vont dire, oui, société civile n'est pas crédible. Quoi. Nous, société civile, nous disons que les partis politiques arrêtent de prendre en otage la population ivoirienne. Parce que la vie ivoirienne est rythmée selon leur bon vouloir. C'est vrai que, effectivement, c'est par là qu'on passe pour arriver au pouvoir. Mais quand on arrive au pouvoir, on déroule un programme. Mais quand on dit, oui, on veut changer la commission électorale, mais c'est pour faire quoi même? C'est pas le même code là. Commençons par changer le code électoral. Commençons par changer la loi. Même cette question d'audit, on nous reproche à la CEI, oui, et il y a des morts sur la liste. Mais si c'est la CEI qui tue les gens, ou bien c'est la CEI qui est chargée de déclarer les morts. Quel jour quelqu'un est venu avec l'acte de décès de son parent, et puis la commission électorale a refusé d'enlever le nom de la personne. Maintenant, ceux qui pensent qu'il y a des morts dessus, qu'ils apportent les preuves. Nous, commission électorale, nous nous adressons aux structures où on déclare les morts. C'est eux qui nous donnent la liste. Quand ils nous donnent la liste de ceux qui sont censés être morts, on bat les noms les yeux fermés. C'est la même chose pour ceux qui ont perdu leurs droits civiques et politiques. C'est pas nous qui faisons les jugements, c'est pas nous qui rendons la justice, mais quand l'institution qui rend la justice, l'institution qui recueille ceux qui sont décédés, nous envoie les listes, parce que c'est à eux qu'on écrit. Et en plus, on permet dans le contentieux aux électeurs, à toute personne, de venir regarder si son parrain est encore dessus, qu'ils viennent avec le document. D'où vient que c'est une affaire de la commission électorale? Ce n'est pas une affaire de la commission électorale. Il faut avoir, c'est-à-dire, quand on veut nourrir son chien, on l'accuse de rage, mais la commission électorale n'est en rien liée aux crises qui se passent. C'est les partis primaires, là. C'est elle.
2010, élection présidentielle de sortie de crise dans les coulisses de la CEI. Je recevais l'auteur donc de ce livre. Il s'agit donc de Madame Marguerite Yolibi Koné. Elle est commissaire centrale à la CEI, commission électorale indépendante. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir échangé avec nous. Nous vous donnons rendez-vous pour d'autres émissions sur ce plateau de La Grande Interview. À très très bientôt.
Merci.
Vous venez de suivre La Grande Interview.